Mon histoire des femmes, par Michel Perrault. 15e épisode.
Écrire fut difficile. Peindre, sculpter, composer de la musique, créer de l'art, fut encore plus difficile. À cela, des raisons de fond. L'image et la musique sont des formes de création du monde. La musique surtout, langage des dieux. Les femmes y sont impropres. Comment pourraient-elles participer à cette mise en forme, à cette mise en musique du monde? Les femmes peuvent tout juste interpréter, être cantatrices, par exemple. Les femmes peuvent peindre pour les leurs, crayonner les portraits des enfants, esquisser des bouquets de fleurs, jouer au piano, Schubert ou Mozart, pour une soirée familiale ou mondaine. Mais cette initiation à un usage privé de l'art ne devait mener ni à une profession, ni à la création. Tout juste, en cas de besoin, une femme pouvait-elle donner des leçons de dessin ou de piano, fabriquer des objets ou copier des chefs-d'œuvre dans les galeries des musées où Hubert Robert nous a peint la grande galerie du Louvre avec beaucoup de femmes qui copient. Ces musées dont Baudelaire disait qu'ils étaient les seuls endroits convenables pour une femme. Un véritable apprentissage était exclu. Sous prétexte que le nu devait être caché aux jeunes filles, on leur refusait l'accès à l'école des Beaux-Arts, qui à Paris ne fut ouverte aux filles qu'en 1900. Non sans chahut des étudiants, qui n'aimaient pas du tout voir arriver les filles. Les filles devaient se rabattre sur les écoles ou les académies privées, dont la plus célèbre fut à Paris l'Académie Julian. De petits maîtres tels Robert Fleury, Bastien Lepage, y dispensaient un enseignement académique fondé sur l'antique et le nu, mais le nu copié. Les jeunes filles y affluaient quand même de toute l'Europe. C'était un milieu très vivant que Denise Noël a décrit dans une thèse malheureusement inédite sur les femmes artistes à Paris autour de 1900. Elle s'appuie, Denise Noël, sur les journaux et les correspondances qu'ont laissé des artistes, qui d'ailleurs ont laissé un nom, comme Louise Breslau, Sophie Schöppi ou Marie Bashkirtseff. Cette dernière est bien intéressante. C'est une jeune aristocrate russe qui est morte à 27 ans en 1885 de tuberculose. Et elle est morte donc très jeune. Et elle a pourtant laissé un journal de 19 000 pages qui a été déposé par sa mère à la Bibliothèque nationale et qui est en cours de publication intégrale à l'âge d'homme. On en a donc des fragments, mais des fragments importants. C'est un remarquable témoignage sur le quotidien et les souffrances d'une jeune femme qui aspirait à être une véritable artiste et se heurtait à l'incompréhension de sa famille qui ne voulait que la marier et aux préjugés naturellement de son temps. À l'Académie Julian, elle aimait bien l'atmosphère de camaraderie égalitaire. Elle était heureuse, je la cite. À l'atelier, tout disparaît. On n'a ni nom, ni famille. On est soi-même. On est un individu. Et on a devant soi l'art et rien d'autre. Mais elle déplore l'insuffisance de formation, le machisme et la condescendance dont font preuve les professeurs. Je cite, « Ces messieurs nous méprisent. Et ce n'est que quand ils trouvent une facture forte et brutale qu'ils sont contents. C'est un travail de garçon, a-t-on dit de moi. Cela a du nerf, c'est nature. Elle est primée, elle est contente, mais elle n'est pas dupe. Elle sait que le chemin à parcourir pour devenir vraiment grande est long. Je me ferais bien communarde, rien que pour faire sauter les maisons, les intérieurs de famille, écrit cette révoltée, qui collabore par ailleurs à la citoyenne d'Hubertine Auclair, suffragiste française. Elle parvint cependant à se faire admettre au salon qui était la principale instance de légitimation officielle. Et on peut aujourd'hui voir des tableaux de cet artiste doué, trop tôt disparu, je l'ai dit à 27 ans, notamment au musée de Nice. Au salon, les jurys étaient entièrement masculins. Et ils attendaient des femmes qu'elles se conforment au canon de la féminité, par les sujets, nature morte, portrait, scène d'intérieur, et par la facture, naturellement ni nue, ni peinture d'histoire. Alors cela inclinait au conformisme. Les femmes ne faisaient pas forcément des choses révolutionnaires. On ne voulait pas qu'elles fassent des choses révolutionnaires, de toute façon. D'où les protestations de Baudelaire, qui rendaient compte de ces salons. Il parlait de cette invasion de femmes qui affadissent la peinture. Dans les avant-gardes, les femmes n'étaient pas nombreuses, sauf quand elles faisaient partie, elles avaient avec les avant-gardes des liens familiaux. Telle Berthe Morisot, bien connue. Elle était la belle-sœur d'Édouard Manet, qui en fit d'ailleurs un de ses modèles. Et Berthe n'avait pas même d'atelier à elle. Elle se limite par ailleurs à la peinture d'intérieur, et surtout à la peinture de sa fille Julie, qu'elle peint du berceau, le fameux berceau de Berthe Morisot, à l'adolescence. Le désir de glorification après la mort me paraît une ambition démesurée, écrit-elle dans ses carnets qui ont été publiés par Anne Higonnet et cités par Marie-Jo Bonnet. La mienne se bornerait à vouloir fixer quelque chose de ce qui se passe. On a d'elle quelques rares autoportraits, tout juste esquissés, comme si elle en avait honte. Elle souffrait de sa marginalité artistique. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un homme traitant une femme d'égal à égal. Et c'est tout ce que j'aurais demandé, car je sais que je les vaux. Derrière la mélancolique douceur de Berthe, il y a la violence de la création blessée. La vie quotidienne des femmes peintres n'était pas aisée. L'atelier est un monde d'hommes. Elles n'y étaient pas admises, ou alors uniquement comme modèles. Elles n'ont généralement pas les moyens d'en avoir un. Elles peignent dans un coin de leur appartement. Elles manquent d'argent pour acheter les matériaux nécessaires. Elles n'ont pas de quoi se payer des modèles. Et quand il s'agit de planter son chevalet dehors, eh ben c'est toute une histoire. Par exemple, Rosa Bonheur, qui, comme on le sait, peignait des animaux, dut pour ce faire solliciter l'autorisation du préfet de police, tout simplement parce qu'elle voulait porter un pantalon. On voit à quel point c'était difficile. Pour pallier ces problèmes, les femmes peintres cherchaient à se grouper. Elles formaient des couples, souvent des couples de lesbiennes d'ailleurs. Elles inventaient des solutions originales pour exercer leur art. Et pourtant, les femmes peintres sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne croit. Les chercheuses, depuis quelques années, aux États-Unis et en France, ont repéré à travers les catalogues des salons et des musées et des expositions des dizaines, voire des centaines d'artistes, pour la plupart obscurs. Qui se souvient des Italiennes Artemisia Gentileschi au XVIe siècle? On lui a, celle-là, consacré un beau film, il y a quelques années, Artemisia, justement. Qui se souvient de Rosalba Carriera, dont on peut admirer de beaux tableaux à la Galerie de l'Académie à Venise? Tout de même, on la connaît pas beaucoup. L'une et l'autre, d'ailleurs, semblent avoir eu un sort tragique. Il était préférable de travailler pour un grand homme, de se limiter au portrait, généralement de femmes. Pensez à Madame Élisabeth Vigée-Lebrun, qui, elle, a atteint une notoriété. Il valait mieux s'investir dans des genres secondaires, les arts décoratifs, où les femmes sont de plus en plus nombreuses au XIXe et XXe siècle. Ou encore la photographie, un art mineur, comme écrivait Pierre Bourdieu. De Julia Cameron à Diane Arbus, Claude Cahun, Janine Niepce, tant d'autres, il y a un chemin lumineux à retracer. Et je ne parle pas ici, faute de temps, de la création cinématographique où s'affirment aujourd'hui tant de talents, d'Agnès Varda à Jane Campion, par exemple, et tant d'autres. En France notamment, il y a beaucoup de femmes cinéastes tout à fait passionnantes. Au XXe siècle, les choses ont-elles changé en ce qui concerne la peinture et la musique. Oui, mais sans bouleversement. D'une part, il y a de plus en plus de couples de peintres, hommes et femmes, notamment dans les ateliers d'Europe centrale des années 1920-1930, dans l'expressionnisme allemand, dans le Blaureiter, dans le Bauhaus. On voit, en effet, beaucoup de femmes en couple avec des hommes et qui sont des artistes actives. En France, on pourrait parler du couple Robert et Sonia Delaunay. Mais on voit aussi une minorité de femmes qui prennent vraiment leur indépendance. Pensez à Vieira da Silva ou Nikit Saint-Phalle qui est morte, je crois, l'an dernier. Mais c'est tout de même une minorité. Les grands noms restent masculins. Plus encore du côté de la sculpture, comme le montre l'histoire dramatique de Camille Claudel, qui n'a jamais réussi vraiment à s'affranchir de Rodin. Et dans l'architecture, qui est un art du plan et du chantier, un art viril par excellence, les femmes ont du mal, véritablement, à se faire une place. L'italienne Gae Olanti, qui a d'ailleurs restauré le musée d'Orsay, est tout à fait une exception. Des familles d'abord. La mère de Madame Roland refusait de faire de sa fille une virtuose parce que, c'est Madame Roland qui parle dans ses mémoires, elle voulait par-dessus tout que j'aimasse les devoirs de mon sexe et que je fusse femme de ménage et mère de famille. Le père de Félix et Fanny Mendelssohn, tous deux, frères et sœurs, doués, également doués, eh bien, le père écrit à Fanny, peut-être deviendra-t-elle pour lui une profession, la musique, tandis que pour toi, elle ne sera jamais qu'un agrément. C'est pire encore quand les objurgations viennent du mari ou du compagnon. Clara Schumann se sacrifie à Robert, Alma Mahler à Gustave. Durant leur fiançailles, celui-ci lui avait demandé explicitement de renoncer à sa musique. Comment te représentes-tu un ménage de compositeur? T'imagines-tu à quel point une rivalité si étrange deviendra nécessairement ridicule? Que tu doives être celle dont j'ai besoin, mon épouse et non pas ma collègue, cela c'est sûr. Ce qu'il lui propose, c'est la collaboration et l'amour fusionnel de leurs êtres et de leur musique, ce qu'elle a accepté, finalement. Qu'aurait-elle fait, Alma Mahler? Nous pouvons évidemment nous le demander. les femmes compositrices furent rares et oubliées. Ainsi, pour Augusta Holmès, compagne de Catulle Mendès, amie de Wagner, auteur d'un opéra, de plusieurs symphonies, de nombreuses pièces pour piano, et qui fut très célèbre à la fin du XIXe siècle. Elle est morte en 1903. Pourquoi fut-elle si vite oubliée? Sans doute parce qu'elle ne fut pas un modèle de mère, qu'elle rejeta les codes mondains et qu'elle s'entêta à faire un métier d'homme, à la différence d'autres musiciennes telles qu'Alma Mahler, Fanny Mendelssohn ou Clara Schumann, nous dit sa biographe Michel Friand dans un livre qui est paru à Autrement en 2003. Et Michel Friand s'efforce de la faire redécouvrir. Aujourd'hui, les difficultés persistent dans le domaine musical. Il y a de plus en plus de femmes brillantes interprètes, non seulement comme pianistes, Martha Argerich et tant d'autres, mais comme violonistes, Anne-Sophie Mutter par exemple. Mais les chefs d'orchestre et les compositrices sont rares. La reconnaissance tardive qu'on accorde aujourd'hui à Betsy Jolas, née en 1926, grande dame de la musique dodécaphoniste, proche de Pierre Boulez et de Henri Dutilleux, avant de travailler en solitaire, est tout à fait exceptionnelle. Les femmes sont pourtant aujourd'hui les principales consommatrices d'art. Elles hantent les chorales, les concerts, les expositions. Elles sont aussi mécènes, même si les grandes collections d'art sont plus souvent masculines. Ainsi, les reines, Fanny Cossandet nous rappelle que c'est Marie de Médicis qui a commandé à Rubens la série que l'on peut voir au Louvre. Nelly Jacquemart fut la compagne avisée de son mari, le banquier André. Et voyez aujourd'hui le fameux musée Jacquemart-André. Et le mécénat musical fut essentiel pour la musique française contemporaine. Debussy, Dindy, Satie, Saint-Saëns furent joués d'abord dans des salons de mécènes féminins comme celui de la princesse Singer Polignac, dont Myriam Chimène récemment nous a raconté l'histoire. Le rôle des femmes dans la création artistique contemporaine est donc à réévaluer.
Mon histoire des femmes, par Michel Perrault. Réalisation, Pierrette Perronneau.